France Culture, les matins d'été, Julie Gacon.
C'est une histoire fascinante que quelques journaux étrangers avaient relayée en 2010, mais sans en avoir vérifié l'authenticité, celle d'un Coran de sang, rédigé par Saddam Hussein quelques années avant sa mort. 114 sourates copiées avec 24 litres de sang prélevés pendant 2 ou 3 ans en présence d'un calligraphe qui devait s'exécuter sous peine de fâcher le président irakien. Soi-disant cachée pendant la chute de Saddam Hussein par des imams, la relique aurait été un temps conservée dans une crypte de la grande mosquée de Bagdad, protégée par de nombreuses portes dont les clés furent méticuleusement disséminées par sécurité. Mais où se trouve aujourd'hui ce Coran de sang? A-t-il jamais existé? Et qui l'a vu? C'est l'objet d'une enquête, disons littéraire, publiée cet été dans la revue 21, Le Coran de sang, écrite à deux, un journaliste, Lucas Manget, et un écrivain, Emmanuel Carrère. Bonjour Lucas Manget.
Bonjour Julie Gacon.
Les auditeurs estivaux de France Culture vous reconnaîtront, c'est vous qui étiez l'année dernière à cette même table pour
Quel
présenter les matins.
Quel honneur d'être de nouveau à votre table.
Et de l'autre côté du micro, vous avez depuis rejoint la rédaction de France Info, dont vous êtes le directeur adjoint. Alors quand et par qui entendez-vous, Lucas Manget, parler pour la première fois de ce Coran de sang?
J'en entends parler la première fois en 2003, tout simplement au moment de la chute du régime de Saddam Hussein, de la chute de Bagdad, quand les Américains rentrent dans la ville. Et j'ai un ami et collègue du Figaro, Adrien Jaulme, qui le voit. Mais il n'y fait pas vraiment attention. En fait, il y avait des musées, il y avait surtout un musée qui collectionnait les cadeaux du régime. Toutes les voitures, les motos, les stylos, les montres que Saddam Hussein avait reçues en cadeau. Et il va avec un ami photographe dans ce musée, mais c'est le chaos total à Bagdad à ce moment-là. Faut imaginer les tanks américains dans les rues, la population complètement livrée à elle-même, des pillages dans tous les sens. Et en fait, lui s'intéressait à la moto de Saddam Hussein, qui était une Norton. Bon, il voulait voir cette moto. Et puis, il passe à côté d'une sorte de vitrine dans laquelle il y a un Coran. Et il m'en parle quelques jours, dans cette période. Et puis voilà, j'entends parler de cette histoire.
Parce que vous-même, vous faites des allers-retours en Irak.
Moi, je couvre à ce moment-là, moi aussi, la chute de Bagdad. Mais je fais pas cette histoire du musée. Je suis ailleurs. Je circulais beaucoup dans l'Irak. J'étais à certains moments à Bassora, dans la grande ville du Sud. Et puis je remontais à Bagdad. Bon. Donc j'entends parler de cette histoire. Et puis, de loin en loin, comme ça, de temps en temps, j'entends parler d'une... Mais c'est, à l'époque, c'est une légende. Et d'ailleurs, ce collègue, quand il le voit, il me dit « Oui, on m'a dit que c'était un Coran en sang, mais voilà, on n'y prête pas vraiment attention. » Et puis, j'ai continué à aller beaucoup, beaucoup en Irak, à couvrir l'Irak de 2003 jusqu'à aujourd'hui. Je continue à y aller, à essayer d'y aller régulièrement. Et je réentends parler de cette histoire. Mais, encore une fois, sans y prêter... Enfin, c'est petit à petit que je me dis « C'est quand même étrange, ce truc d'un Coran en sang. » Et c'est Patrick de Saint-Exupéry, le fondateur de 21, qui il y a 2 ans m'en parle. On se voit à Paris et il me dit « Est-ce que tu connais cette histoire ?» Je dis « Oui, je la connais ». Il avait lu l'article du Guardian auquel vous faisiez référence et il me dit « Il faudrait peut-être enquêter sur cette histoire ». Et c'est là que naît cette quête à laquelle va s'adjoindre Emmanuel Carrère, puisque j'en parle avec lui et il me dit « Mais j'y crois absolument pas à ton histoire, c'est une légende ».
Et vous, vous y croyez en revanche?
Moi, j'y crois parce que je crois à la folie de Saddam Hussein. Je crois à quelque chose d'assez particulier en Irak, à une violence qui existe dans ce pays, mais aussi à des délires dont Saddam Hussein était capable pour, à la fin de sa vie, à la fin de son régime, essayer de s'attirer une sorte d'aura religieuse. Il avait déjà fait construire une mosquée complètement délirante, avec des minarets en forme de mitraillettes, de scuds. Voilà. Il était dans une sorte de délire politico-religieux.
Ce qui était assez, entre guillemets, nouveau. C'est un délire qui a commencé dans les années 90. Mais quand il se fait élire président en 79,
exactement,
il est laïque convaincu,
bien sûr,
affiché.
Et c'est d'ailleurs en étant ce laïque convaincu qu'il séduit toute la classe occidentale, à commencer par la France, qui voit en Saddam Hussein un dirigeant moderne, laïque, dans un pays qui est profondément religieux, comme tous ces pays du Moyen-Orient. Mais l'Irak est profondément religieux. La laïcité, telle qu'on l'entend, nous, ici à Paris, n'existe pas en Irak. Les familles sont croyantes, les gens sont croyants, tout le monde appartient à une tribu, à un clan et à une religion.
Et cette histoire de Coran de sang, donc appelons-la pour l'instant légende, elle commence aussi par une histoire violente. 96, le fils de Saddam Hussein réchappe à une tentative d'attentat et c'est là le point de départ.
C'est le point de départ, enfin c'est l'un des points de départ de cette histoire. Il y en a à mon avis plusieurs, mais en tout cas, il y a une version qui est tout à fait crédible, qui est celle-ci. Uday est un fils de Saddam Hussein ultra violent, qui sillonne les rues de Bagdad au volant d'une Ferrari ou d'une Porsche et qui littéralement vole les femmes. Il rentre dans les bars et il est le fils de Saddam Hussein, il fait ce qu'il veut. Il vole les femmes et il les viole. Il arrive dans une réunion de généraux où il y a les épouses des généraux et il prend la femme, il s'en va. Et un jour, un militaire s'énerve et se bat contre Uday pour empêcher qu'Uday lui pique sa femme et lui tire dessus. Uday est donné pour mort, il est à l'hôpital, il est d'ailleurs probablement soigné en France à un certain moment, et puis il revient à Bagdad, tout le monde le pense mort, Saddam Hussein est persuadé que son fils va mourir et il dirait « Si mon fils s'en sort, je rédigerai un Coran avec mon sang. » Cet épisode était avéré dans différentes biographies très sérieuses de Saddam Hussein. Cet épisode existe, donc j'avais déjà retrouvé ces traces-là. Mais ça correspond à ce moment politico-religieux aussi. Mais c'est là que se déclenche véritablement cette histoire et qu'un calligraphe est chargé d'écrire un Coran avec le sang de Saddam, et c'est là que ça se complique.
Il y aurait quelques témoins, donc un calligraphe, une infirmière, un conseil de sages aussi, oui. De sages religieux que Saddam Hussein aurait obligé quasiment oui. à absoudre, en tout cas à donner leur bénédiction à cet acte, parce que à l'origine, utiliser son sang pour écrire un Coran,
c'est un blasphème.
C'est un blasphème.
En fait, Saddam Hussein a piégé tout le monde, comme toujours. Il a demandé donc qu'on rédige un Coran avec son sang, chargé probablement une infirmière dont on n'a pas retrouvé la trace, mais de prélever son sang. Mais pour habiller ceci d'une autorisation religieuse, il réunit un conseil d'ouléma. Donc d'ouléma, c'est des autorités religieuses sunnites, puisque Saddam Hussein est sunnite. Il les réunit et il leur demande une autorisation. Mais évidemment, ces oulémas lui donnent l'autorisation. Ils sont terrifiés. Faut se remettre à l'époque, fin des années 90, Saddam Hussein n'est plus ce gentil président laïque que l'Occident aime bien. C'est un homme qui a déclenché des guerres, qui a mis des centaines d'opposants en prison, qui fait torturer du monde, qui fait arrêter en permanence. Tout le monde commence à vivre sous la terreur de Saddam Hussein, y compris son entourage, qui voit ce personnage devenir extrêmement sanglant. Donc les oulémas disent, mais bien sûr, grand chef, allez-y, vous avez l'autorisation. Ils sont terrifiés. Parce qu'ils ne peuvent pas dire non à Saddam Hussein. Ils savent que c'est complètement blasphématoire. Ce qu'on a compris, c'est que probablement ils se disent en fait il le fera pas. Parce qu'il commence beaucoup de choses, mais il le fera pas. Donc ils se disent ok, il va faire son Coran en sang, il va le commencer, mais en fait ça marchera pas. Sauf qu'il y a un calligraphe qui est désigné. Et qu'en fait, il y a du sang qui est prélevé. Et qu'effectivement commence l'écriture d'un Coran de sang. Par un calligraphe très particulier.
Donc vous voilà donc à Bagdad pour mener l'enquête avec Emmanuel Carrère. Vous y êtes déjà venu une trentaine de fois depuis 2003. Lui non, je crois que c'est la première fois qu'il vient à Bagdad. Donc ça fait plus d'un an quand vous arrivez là-bas que vous n'y étiez pas retourné. Le temps déjà à la ville de changer. Vous n'avez pas le même regard forcément avec Emmanuel Carrère sur cette ville.
Oui, et puis c'était intéressant parce que je lui avais décrit un endroit qui était extrêmement sombre, dangereux, c'était le Bagdad que j'avais quitté un an plus tôt, à une période où il y avait encore énormément d'attentats. Juste pour recadrer les choses, Bagdad est la ville dans l'histoire de l'humanité qui a connu le plus d'attentats. Voilà, donc c'est une ville où chaque rue a connu un attentat à la voiture piégée. Voilà. Donc dans une ville d'une très grande violence. Sauf qu'entre-temps, l'État islamique a perdu à Mossoul. La bataille de Mossoul s'est terminée et a ouvert une sorte de petit printemps bagdadi irakien, où après cette longue bataille contre l'État islamique, qui bien sûr a touché les gens de Bagdad beaucoup, parce que beaucoup de gens sont partis se battre contre l'État islamique à Mossoul, chacun a perdu des proches, et puis ça a occupé l'opinion irakienne énormément. Et donc là, entre-temps, l'État islamique était tombé, et tout d'un coup, on arrive à Bagdad, et Emmanuel Carrère me dit « Mais c'est pas du tout ce que tu m'avais décrit, il y a des gens dans les rues, il y a des cafés ouverts, et effectivement. » Et c'était pour moi extrêmement agréable et touchant, connaissant bien cette ville, de la voir. Alors évidemment, tout n'est pas réglé, loin de là. Et puis là, en ce moment, au moment où on se parle, ça se retend beaucoup. Mais quand on y était en mars dernier, il y avait effectivement ce petit moment.
Vous avez même le temps de flâner dans les librairies qui restent ouvertes,
dans
qui sont là.
Dans des librairies, dans des cafés, on est allé à des concerts. J'ai même vu une première de cinéma d'un film irakien à Bagdad, ce qui était absolument impossible. Donc il y a toute cette atmosphère un peu de détente, et y compris, et à commencer par les jeunes, dont on perçoit immédiatement, qu'en fait, ils ont, ces jeunes aujourd'hui, ceux qui ont 19-20 ans à Bagdad, n'ont connu que l'extrême violence, l'invasion américaine, ensuite la guerre civile entre sunnites et chiites. Donc là, tout d'un coup, il y a une sorte de souffle et de, on voit des jeunes couples dans les rues qui se tiennent la main, ce qui était impensable il y a encore un an.
2003, l'invasion américaine, exécution de Saddam Hussein 2006, et depuis cette zone verte dans laquelle vous devez aller de temps en temps faire des interviews, et là, on sent la guerre est toujours présente, vous devez passer de multiples contrôles, des murs, et les murs, ça, voilà, ça marque Emmanuel Carrère, beaucoup plus que vous.
Bah moi, il se trouve que les murs, je les connais bien, ouais. J'ai même fait un film sur les murs de Bagdad, donc j'en avais vraiment une vision, disons que j'en ai une vision assez précise, et voilà, et que ça fait partie de l'univers de Bagdad. C'est sûr que quand on Et j'ai emmené Emmanuel dans la zone verte, il s'est rendu compte de ce que c'était que ces murs, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle des T-walls, parce qu'ils sont des formes de T renversées, et qui entourent l'intégralité de la zone verte pour protéger les diplomates, les militaires, et les fonctionnaires, en gros l'exécutif irakien qui réside aujourd'hui dans la zone verte. Mais il faut passer des portes dans les murs, des multiples contrôles pour y accéder. Aujourd'hui, c'est ce dernier îlot de Bagdad qui est complètement coupé du reste de la ville et du pays. Et c'est de là que se dirige le pays, donc c'est assez inquiétant.
Quand vous étiez, il y a un an et demi sur place, la contestation sociale avait commencé, celle qu'on voit là,
bien sûr.
S'ouvrir dans les rues, les manifestations.
Les manifestations contre le coût de la vie, contre la corruption qui est endémique en Irak, contre l'absence d'électricité.
Vous savez, les coupures volontaires.
On est là en train de se plaindre à Paris et en France en ce moment de chaleur un peu anormale. Il faut savoir qu'en été à Bagdad, il fait régulièrement 50-55 degrés. Donc, ou quand il y a une heure d'électricité par jour, c'est même pas des questions de climatisation, c'est tout simplement des questions de survie. C'est-à-dire que il faut que les frigos puissent essayer de marcher. Donc les gens ont un ras-le-bol total d'une administration qui ne fonctionne pas, qui est complètement corrompue. Et la contestation avait commencé avec différents leaders religieux qui ont réussi à se saisir de cette contestation populaire et d'en faire un combat politique.
Alors, vous, pour mener votre enquête, vous voulez à la fois essayer de retrouver ce Coran s'il existe, mais aussi savoir ce qu'en pensent les Irakiens et le rapport qu'ils entretiennent aujourd'hui avec Saddam Hussein. Vous rencontrez successivement un diplomate japonais dans la zone verte, des Irakiens, un ayatollah, donc un dignitaire religieux chiite, le cheikh Soumadaï, grand ouléma des sunnites. Vous avez toujours la même technique, et ça, Emmanuel Carrère est très impressionné. Vous commencez par poser à vos interlocuteurs des questions dont je ne doute pas par ailleurs que vous voulez poser vraiment. Comment va Bagdad? Comment va l'Irak? Quel rôle respectif des chiites et des sunnites dans les victoires de Daesh? Et puis au moment où vous devez partir, vous refermez votre cahier. Et tiens, au fait, cette histoire de Coran de sang de Saddam Hussein, ça vous dit quelque chose? En fait, vous sentez que c'est vraiment une question sensible?
Je savais que c'était une question sensible. Par ailleurs, effectivement, les questions que je posais avant sont m'intéressent. Hein. C'est-à-dire, ça me permet de savoir ce qui se passe en Irak. Et puis, c'est des gens que je connais bien. Je suis allé voir des dignitaires religieux que je connais depuis des années. Mais c'est vrai que je savais, et je supposais en tout cas, que cette question du Coran de sang pouvait être très sensible et qu'elle fait peur. Pour les raisons que vous avez décrites tout à l'heure, c'est un objet blasphématoire. Et donc personne n'a intérêt à le retrouver, à en parler. Donc je voulais pas aborder frontalement, d'abord pour des questions de politesse, pour ne pas mettre des gens en difficulté, y compris devant leurs entourages respectifs. Mais c'était intéressant effectivement d'utiliser cette technique qui amusait Emmanuel, mais parce que je voulais pas que ce soit... que ça apparaisse comme quelque chose de central, or ça l'était dans notre quête. Et ce qui était intéressant, c'est de voir les différentes réactions. De surprise, comme si on allait rechercher un très vieux souvenir que tout le monde avait besoin ou envie d'enfouir très loin. Il y a eu beaucoup de grands silences quand j'ai posé ces questions-là. De silences interrogatifs, un peu du genre, mais pourquoi est-ce qu'il nous reparle de ça? Et comment est-il au courant de cette histoire qu'on pensait avoir vraiment mise le plus loin possible dans notre... inconscient national et collectif, parce que ça réveille de très mauvais souvenirs, et en même temps, ça réveille le souvenir d'un pays qui était certes une dictature terrible, mais qui n'était pas le chaos actuel. Et donc ça a enclenché des discussions qui m'ont, moi, surprise, y compris de la part de chiites, donc les chiites, c'est la population majoritaire en Irak, mais qui était très opprimée sous Saddam Hussein, qui ont fini par dire en parlant de ce Coran de sang et donc de reparler de la dictature. Et il n'y a pas de regret du personnage de Saddam Hussein, il y a le regret d'un ordre qui existait dans ce pays.
Un ordre, un pays moderne, prospère, laïque, un pays du Moyen-Orient comme l'Occident rêvait qu'ils deviennent tous, écrit Emmanuel Carrère, qui retrouve en Irak ce qu'il avait connu, lui, en Union soviétique dans les années 90. Un ordre, même mauvais, vaut mieux que le chaos, lui disaient les Russes, et c'est ce qu'il écrit.
Oui, c'est très juste la remarque d'Emmanuel, parce que c'est très... Aujourd'hui, après 17 ans de guerre civile et d'ultra-violence dans le pays, il y a une sorte de vide. Ils ne savent pas ce qui va se passer. Donc quand on ne sait pas ce qui va se passer, et particulièrement dans ces pays-là, où il y a quand même une longue tradition de chefs, et même s'ils sont durs, il y a une tentation de revenir à ça, et de revenir à un ordre qui mette fin à cette violence.
Bon, alors ce courant de sang, au fur et à mesure du texte, votre intérêt, vous le disiez tout à l'heure, va se déporter vers celui qu'on vous désigne comme le calligraphe, oui. Celui qui aurait rédigé ce Coran quasiment le couteau sous la gorge. Cette danse macabre du courant de sang, il fallait être deux à la danser, écrivez-vous, le commanditaire et le scribe, le dictateur et le calligraphe, entourés de religieux serviles et effarés. Et alors, qu'est-ce que vous commencez à apprendre sur ce calligraphe? Il vous faut pour ça aller à l'école des Beaux-Arts, oui, de Bagdad.
On a remonté différentes pistes que j'avais un petit peu commencé à explorer à l'avance, mais je voulais y aller doucement. Et donc, effectivement, vous savez, Bagdad, c'est la grande école de calligraphie du Moyen-Orient. Historiquement, c'est l'endroit où... Pas pour rien que c'est là qu'a été inventée l'écriture, l'Irak, mais ça s'est poursuivi. Et il y a une très grande école des Beaux-Arts qui était très 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 réputée au Moyen-Orient, et au sein de cette école des Beaux-Arts, une école de calligraphie. On est allé voir ces calligraphes. Là aussi, ça a été un peu une surprise pour eux, c'est-à-dire qu'ils pensaient qu'on venait discuter de calligraphie. Et puis, voilà, les entretiens ont été très longs, mais on a commencé à parler du Coran de sang, et ils nous ont tout de suite... mis sur la bonne piste, en disant que ça ne venait pas de chez eux. Et en fait, c'était logique, parce que Saddam Hussein ne voulait surtout pas faire appel à des universitaires. Il pouvait pas faire appel à eux, parce que ces universitaires, en gros, n'auraient jamais toléré ça. Et il se serait mis à dos l'école de calligraphie de Bagdad. Donc il est allé chercher, en demandant des conseils, un calligraphe extrêmement doué, mais complètement autodidacte, et en dehors du circuit universitaire. C'est un homme qui avait une petite boutique dans Bagdad. Et il est allé chercher cet homme, et ça, on a plusieurs témoignages qui nous le racontent, et il l'a installé dans la zone verte. Il lui a donné une voiture, un grand salaire, un gros salaire pour l'Irak de l'époque, un chauffeur. Il a mis sa femme à l'abri, ses enfants à l'abri. Mais sauf qu'il lui a mis, comme vous le dites, il le dit d'ailleurs lui-même, une lame sur le cou. Enfin, ses amis disent qu'il avait une lame sur le cou.
Il dit qu'il a failli en devenir aveugle, d'ailleurs.
Il a travaillé jour et nuit, et il a rédigé ce Coran de sang avec alors. C'est une question, une des questions auxquelles on répond. On ne peut pas écrire uniquement avec du sang. Donc les 20 et quelques litres de sang, c'est un mythe, ça. Puisqu'il y avait probablement du sang de Saddam Hussein, il se faisait prélever du sang, mais il faut le mélanger. Parce que le sang, ça ne reste pas. Ça sèche et ça disparaît. Donc c'est du sang mélangé à des encres. Voilà. Mais il a travaillé jour et nuit et il a fait ce courant de sang qui a été montré ensuite à la télévision irakienne.
Et qui a fait l'objet d'un débat parlementaire aussi.
Oui, mais il a été d'abord montré, quand il a été fini, il a été montré très brièvement, là aussi comme si tout le monde en avait peur. On montre et puis il disparaît. Et puis il a fait l'objet d'un débat parlementaire il y a peu de temps, où deux factions, on va dire, politiques irakiennes se sont opposées. L'une voulait le détruire, et les autres voulaient le conserver comme vestige de la dictature. Et puis surtout, on ne peut pas détruire un Coran.
Alors le visage de ce calligraphe va se dessiner peu à peu, et puis on va peut-être s'arrêter là pour ne pas en dire trop sur votre article, pour ne pas dévoiler la fin de votre texte. On peut simplement dire qu'il y aura une suite.
Oui.
Lucas Manget, partir avec un écrivain, et pas seul comme vous l'avez sans doute toujours fait depuis que vous allez régulièrement en Irak, au départ pour France 24 dès 2003, 2007. Oui. Bon, en tout cas, pourquoi un écrivain? Pourquoi lui? Et comment ça s'est passé?
C'est une rencontre qu'a organisé Patrick de Saint-Exupéry. Je connaissais pas du tout Emmanuel Carrère autrement que par ses livres que j'avais lus. Emmanuel est très intéressé par les légendes. Quand je lui ai parlé de ce Coran de sang, il a été tout de suite emballé par la légende, tout en m'expliquant qu'il n'y croyait pas. Et moi, ça m'intéressait beaucoup d'aller en Irak avec un regard complètement différent, qui n'est pas un regard de journaliste. C'est vrai que voilà, moi j'ai travaillé là-bas comme journaliste et uniquement comme journaliste, et il voyager et y travailler avec un écrivain comme Emmanuel Carrère m'a permis de voir les choses très différemment, de me poser des questions très différemment. Et puis d'abord ça a été un reportage très agréable humainement à faire et à écrire avec un écrivain. Alors pas évident pour un journaliste comme moi de me mettre à écrire avec Emmanuel Carrère, mais il a trouvé un système intelligent pour qu'on puisse écrire chacun nos parties et se répondre l'un l'autre.
Quelle question ne vous serait peut-être pas venue à l'esprit, ou quelle question vous auriez posée différemment s'il n'avait pas été là ?
Je pense que j'aurais été moins dans une sorte de d'imagination. Emmanuel voit immédiatement la partie romanesque tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a un moment, vous verrez dans l'article, il y a un personnage qui apparaît totalement, qui n'était pas prévu. Dans une discussion qu'on a chez un ministre, il y a un personnage qui apparaît. Et ce personnage apparaît, et moi je commence à le questionner, et il nous raconte plein de choses sur ce corps de sang. Et on monte dans la voiture, et Emmanuel me dit... Tu n'imagines pas une seconde que ce personnage est arrivé par hasard. Lui a vu tout de suite, non pas un complot, mais une organisation pour nous raconter quelque chose.
C'est donc le début de l'histoire, le début de ce Coran de sang, qui est aussi le titre de votre enquête littéraire avec Emmanuel Carrère, en couverture de 21, le numéro de cet été 2018. Merci beaucoup, Lucas Manger, d'avoir été avec nous.